Salut tout le monde et bienvenue dans cette deep dive
Ah.
consacrée aux blessures sportives du genou. On va décortiquer ensemble
D'accord.
un document médical français
Oui.
qui propose une approche vraiment novatrice. Vous savez, les blessures au genou, c'est le cauchemar de nombreux sportifs.
Oui, c'est vrai.
Et même pour monsieur tout le monde, ça peut être très handicapant.
Tout à fait.
Mais la bonne nouvelle,
Yeah.
c'est que les traitements évoluent et offrent aujourd'hui de vraies solutions pour retrouver une vie active.
Absolument. Ce qui est frappant dans ce document,
Oui.
c'est l'accent mis sur une approche intégrée. On ne se contente pas de soigner le symptôme. On cherche à comprendre l'origine du problème, à
Ouais.
restaurer la fonction du genou et à prévenir les récidives.
C'est vraiment une approche holistique, n'est-ce pas? On parle de thérapie de pointe comme le laser et les ondes de choc, mais aussi d'ostéopathie et de naturopathie. C'est l'idée de combiner différentes techniques
Tout à fait.
pour une prise en charge globale. Mais avant de plonger dans le détail de ces traitements,
Oui.
est-ce qu'on pourrait d'abord
Bien sûr.
se familiariser avec les blessures du genou les plus fréquentes?
Bien sûr. Le document se focalise sur quatre types de blessures.
D'accord.
La tendinite rotulienne, le syndrome de la bandelette iliotibiale, le syndrome fémoro-patellaire et
Ouais.
les entorses ligamentaires légères.
D'accord.
Commençons par la tendinite rotulienne,
Oui.
souvent appelée jumper's knee en anglais.
Ah oui, la tendinite du sauteur.
Voilà.
On l'imagine bien chez les basketteurs ou les volleyeurs avec tous ces sauts. Mais au-delà du sport, est-ce qu'une personne lambda peut aussi en souffrir?
Tout à fait. La tendinite rotulienne touche souvent les sportifs, mais
Ouais.
elle peut aussi survenir chez des personnes qui sollicitent beaucoup leurs genoux au quotidien,
D'accord.
par exemple dans certains métiers. En fait, c'est une inflammation du tendon rotulien, ce tendon qui relie la rotule au tibia. Ce tendon est mis à rude épreuve à chaque fois qu'on plie ou tend le genou.
Et c'est cette répétition qui provoque l'inflammation.
Exactement. Imaginez un peu. À chaque pas, à chaque saut, ce tendon subit des micro-traumatismes. Si la sollicitation est trop intense ou trop fréquente,
Oui.
l'inflammation s'installe. Et le document met en lumière un point intéressant.
D'accord.
Un mauvais alignement du membre inférieur, même léger, peut aggraver ces micro-traumatismes et favoriser la tendinite.
Donc, même une petite imperfection au niveau de la posture peut avoir un impact sur le genou.
Oui?
Fascinant.
Tout à fait.
Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut savoir si on a une tendinite rotulienne? Quels sont les symptômes?
Eh bien, le symptôme principal, c'est une douleur localisée juste en dessous de la rotule, à l'endroit où le tendon s'attache au tibia.
D'accord.
Cette douleur est généralement plus intense lorsqu'on monte ou descend des escaliers,
Voilà.
lorsqu'on saute, ou lorsqu'on se relève d'une position accroupie.
Ah, ça donne pas envie d'essayer. Y a-t-il d'autres signes auxquels on devrait faire attention?
Oui, le document mentionne une raideur au niveau du genou,
D'accord.
surtout le matin au réveil. On peut aussi ressentir une sensation de craquement ou de crépitement lorsqu'on plie ou tend le genou. Et bien sûr, si on appuie directement sur le tendon rotulien, la
Oula.
douleur est plus vive.
Ok, donc si on ressent ces symptômes, c'est le signe qu'il faut consulter un professionnel de la santé. Mais parlons maintenant des traitements. Qu'est-ce que cette approche intégrée propose pour la tendinite rotulienne?
Alors,
J'ai entendu parler de laser et d'ondes de choc. Ça me paraît très futuriste.
en effet, ces technologies sont de plus en plus utilisées en médecine du sport. Mais attention,
Oui.
le document ne les présente pas comme des solutions miracles.
D'accord.
Il s'agit plutôt de les intégrer dans une prise en charge globale, qui inclut également des thérapies manuelles et un soutien naturopathique.
Donc, le laser et les ondes de choc ne sont pas utilisées seules,
Voilà.
mais en complément d'autres approches.
Exactement. Commençons par la thérapie au laser.
D'accord.
Vous vous demandez sans doute comment ça marche.
Oui, un peu.
Le laser émet une lumière très précise qui stimule la cicatrisation des tissus. On
D'accord.
parle de photobiomodulation.
Donc, c'est la lumière qui agit directement sur les cellules du tendon pour les aider à se réparer.
C'est ça. Le laser agit à plusieurs niveaux. Il réduit l'inflammation,
Oui.
stimule la production de collagène
D'accord.
et favorise la circulation sanguine dans la zone touchée.
Waouh, c'est vraiment impressionnant. Mais qu'en est-il des ondes de choc?
Oh!
On dirait un truc sorti d'un film de science-fiction.
C'est vrai que le nom peut faire peur.
Ouais.
Mais en réalité, les
Oui,
ondes de choc sont des impulsions acoustiques de haute énergie
d'accord.
qui créent des micro-vibrations dans les tissus.
Et ça aide à guérir le tendonné.
Oui, de plusieurs manières.
Mm-hmm.
D'abord, ces vibrations augmentent la circulation sanguine.
D'accord.
Ce qui favorise l'apport d'oxygène et de nutriments essentiels à la guérison.
Mm-hmm.
Ensuite, elles stimulent la production de facteurs de croissance.
D'accord.
Des molécules qui aident les cellules à se régénérer.
Oui.
Enfin, les ondes de choc peuvent aider à briser les calcifications qui se forment parfois dans les tendons chroniquement inflammés.
OK, donc on a le laser pour réparer et les ondes de choc pour stimuler la guérison.
Voilà.
Mais qu'en est-il de la partie manuelle du traitement?
Ah!
On a parlé d'ostéopathie, c'est ça?
Tout à fait.
D'accord.
L'ostéopathie est une approche manuelle qui vise à rétablir l'équilibre du corps. Dans le cas de la tendinite rotulienne, l'ostéopathe va s'intéresser à l'ensemble du membre inférieur de la hanche au pied pour identifier d'éventuels déséquilibres qui pourraient aggraver la blessure.
Par exemple, un problème au niveau du bassin qui se répercuterait sur le genou.
Exactement.
D'accord.
L'ostéopathe va utiliser des techniques manuelles douces pour relâcher les tensions musculaires, améliorer la mobilité articulaire et corriger les déséquilibres posturaux.
C'est vraiment une approche globale.
Oui.
Et on a aussi mentionné le soutien naturopathique. En quoi est-ce que ça consiste concrètement, Yael?
Eh bien, la naturopathie propose des solutions naturelles pour soutenir le processus de guérison.
D'accord.
Le document mentionne notamment l'importance d'une alimentation anti-inflammatoire, riche en fruits, légumes et oméga-3. Certains compléments alimentaires, comme le curcuma ou la glucosamine, peuvent aussi être conseillés.
Donc, on agit sur tous les fronts arrêts.
Ouais.
On répare le tendon avec le laser. On stimule la guérison avec les ondes de choc. On rééquilibre le corps avec l'ostéopathie.
Tout à fait.
Et on soutient le processus de guérison avec la naturopathie.
Exactement.
C'est vraiment une approche complète faite.
Et ça.
Mais avant de passer aux autres types de blessures, est-ce qu'il y a des points importants à retenir pour nos auditeurs?
Oui, je pense qu'il est important de souligner que cette approche intégrée est encore assez nouvelle.
Oui.
Et que toutes les études scientifiques ne sont pas unanimes quant à son efficacité.
D'accord.
Il faut donc rester prudent et bien se renseigner avant de se lancer dans un traitement.
C'est un point important.
Oui.
Il faut toujours discuter avec son médecin pour choisir le traitement le plus adapté à sa situation.
Tout à fait.
Bon. On a décortiqué en détail la tendinite rotulienne et maintenant, on va s'attaquer au syndrome de la bandelette iliotibiale.
D'accord.
Une blessure qui touche beaucoup de coureurs. Vous êtes prêts?
Tout à fait. Et cette fois-ci, on va parler d'un muscle qui ressemble à une bande élastique géante qui s'étend le long de la cuisse. Accrochez-vous. On poursuit notre exploration des blessures du genou avec le syndrome de la bandelette iliotibiale. Souvent surnommé syndrome de l'essuie-glace.
Ah oui, celui-là, je le connais bien. J'ai pas mal de copains coureurs qui se plaignent de douleurs sur le côté extérieur du genou. D'ailleurs, le document que l'on décortique met en avant le fait que Messazode est fécond. Ce syndrome est particulièrement fréquent chez les coureurs à pied.
Tout à fait.
D'accord. Cette bandelette, c'est un peu comme une longue corde fibreuse qui s'étend le long de la cuisse, de la hanche jusqu'au tibia.
Oui.
Et le problème, c'est que cette bandelette peut frotter contre l'os du fémur, juste au niveau du genou, provoquant inflammation et douleur.
Donc, si je comprends bien, c'est le mouvement répété de la jambe pendant la course qui cause ce frottement.
Ah, c'est l'idée, oui. Imaginez un peu, à chaque foulée, la bandelette glisse sur l'os. Et si on court beaucoup, ou si notre foulée n'est pas optimale, ce frottement répété peut irriter la bandelette et déclencher une inflammation.
Et le document parle de foulée non optimale. Est-ce que certains coureurs sont plus à risque que d'autres stats?
Absolument. Certains facteurs peuvent prédisposer au syndrome de la bandelette iliotibiale.
D'accord.
Par exemple, des pieds plats ou une faiblesse des muscles fessiers peuvent modifier la biomécanique de la course et augmenter le stress sur la bandelette. Le document mentionne également que courir sur des surfaces inclinées, comme le bord de la route, peut aggraver le problème.
Ah oui, je comprends. On a tendance à pencher le corps vers l'intérieur lorsqu'on court sur une surface inclinée, ce qui accentue le frottement de la bandelette. Mais concrètement, comment savoir si on souffre de ce syndrome? Quels sont les symptômes?
Eh bien, le symptôme le plus caractéristique,
c'est une douleur sur le côté extérieur du genou. qui apparaît généralement pendant ou après la course.
D'accord.
Cette douleur peut irradier le long de la cuisse et elle est souvent aggravée par la descente des escaliers.
Et si on appuie sur la zone, est-ce que ça fait mal?
Oui, la palpation de la bandelette iliotibiale, juste au niveau du point de frottement contre le fémur,
Oui.
provoque généralement une douleur vive.
Bon, si on se reconnaît dans ces symptômes, il est temps de parler solution.
Oui.
J'imagine qu'on retrouve l'approche intégrée dont on a parlé précédemment.
Exactement. Le document insiste sur l'importance de combiner différentes approches pour traiter le syndrome de la bandelette iliotibiale.
Alors, parlons-en Hans.
D'accord, Ross.
On commence par quoi? Le laser? Les ondes de choc?
Avant de parler de technologie, le document met l'accent sur l'importance des thérapies manuelles, notamment l'ostéopathie.
L'ostéopathe, c'est donc plus qu'un simple masseur.
Bien plus que ça. L'ostéopathe est un professionnel de santé qui utilise des techniques manuelles pour rétablir l'équilibre du corps. Dans le cas du syndrome de la bandelette iliotibiale, il va s'intéresser à l'ensemble du membre inférieur,
oui,
de la hanche au pied, pour identifier les tensions musculaires,
ouais,
les restrictions articulaires,
d'accord,
ou les déséquilibres posturaux qui pourraient contribuer au problème.
Donc, on cherche à comprendre la cause du problème,
ouais,
pas juste à soulager le symptôme.
C'est l'idée. L'ostéopathe va utiliser des techniques spécifiques pour relâcher les tensions de la bandelette iliotibiale, détendre les muscles trop tendus,
d'accord,
et améliorer la mobilité articulaire.
Et pour la partie technologique? Alors,
on retrouve le laser et les ondes de choc.
Oui, ces technologies peuvent être utilisées en complément des thérapies manuelles. Le laser, comme on l'a vu précédemment,
d'accord,
permet de réduire l'inflammation et de stimuler la cicatrisation.
Les ondes de choc, quant à elles, peuvent aider à relâcher les adhérences et à améliorer la vascularisation des tissus.
On dirait vraiment que le laser et les ondes de choc sont des outils polyvalents.
Oui, c'est vrai.
Mais est-ce qu'il y a des contre-indications à leur utilisation?
Bien sûr. Comme tout traitement médical, le laser et les ondes de choc ont leurs limites et leurs contre-indications.
D'accord.
Il est important de discuter avec son médecin pour savoir si ces techniques sont adaptées à sa situation.
Un point important à retenir.
Mais
on a parlé de thérapie manuelle et de technologie. Qu'en est-il du rôle du patient dans tout ça?
Ah, c'est un aspect crucial. Le document insiste sur l'importance de la rééducation et de l'autoprise en charge. Le patient doit être acteur de sa guérison.
Concrètement, qu'est-ce que ça implique?
Eh bien, cela passe d'abord par des étirements réguliers de la bandelette iliotibiale et des muscles de la cuisse.
D'accord.
Le document propose une série d'exercices simples et efficaces que le patient peut réaliser à domicile.
Et au-delà des étirements?
Le renforcement musculaire est également essentiel. Des muscles fessiers forts et stables permettent de mieux contrôler le mouvement de la jambe pendant la course et de réduire le stress sur la bandelette.
Donc, on étire pour relâcher les tensions et on renforce pour stabiliser.
Exactement.
En tout cas.
Et il ne faut pas oublier l'importance de la proprioception, c'est-à-dire la perception de la position de son corps dans l'espace. Des exercices spécifiques permettent de rééduquer la proprioception et d'améliorer la stabilité du genou.
C'est vraiment une approche complète.
Yeah.
On agit sur tous les fronts. Relâchement musculaire, renforcement.
Tout à fait.
Proprioception.
Voilà.
Mais est-ce qu'on peut prévenir ce syndrome?
Bien sûr. Le document donne quelques conseils de prévention, comme éviter d'augmenter trop rapidement son kilométrage, choisir des chaussures adaptées à sa foulée,
d'accord,
et s'échauffer correctement avant chaque séance de course.
Des conseils précieux.
J'espère.
Bon, on a décortiqué en détail le syndrome de la bandelette iliotibiale.
D'accord.
On va s'attaquer au syndrome fémoro-patellaire.
D'accord.
Une autre blessure fréquente du genou.
Celle-ci touche l'articulation entre le fémur et la rotule. On va plonger au cœur du genou.
Ah, intéressant.
On arrive maintenant au syndrome fémoro-patellaire, une douleur qui touche l'avant du genou au niveau de la rotule.
Ah, celui-là, j'en ai entendu parler. C'est ce qu'on appelle parfois le genou du coureur, n'est-ce pas? Mais le document mentionne que ce syndrome peut toucher un public plus large que les coureurs.
Tout à fait. Le syndrome fémoro-patellaire peut affecter les sportifs, mais aussi les personnes sédentaires, les personnes âgées et même les adolescents en pleine croissance. En fait, c'est un problème de biomécanique. La rotule, au lieu de coulisser harmonieusement dans sa gorge, sur le fémur frotte et crée une irritation, voire une inflammation.
C'est comme si la rotule déraillait légèrement.
Exactement. Et ce déraillement peut être causé par différents facteurs. Une faiblesse des muscles de la cuisse, un déséquilibre musculaire entre l'intérieur et l'extérieur de la cuisse, une mauvaise posture des pieds plats. Le document souligne que le genou est une articulation complexe et que de nombreux éléments peuvent influencer le bon fonctionnement de la rotule.
C'est fascinant de voir comment tout est connecté dans le corps, mais comment savoir si on souffre de ce syndrome? Quels sont les symptômes, Tom?
Le symptôme principal, c'est une douleur diffuse autour de la rotule, qui peut être aggravée par la montée ou la descente des escaliers, la course, la position accroupie ou même la position assise prolongée. On peut aussi ressentir une sensation de craquement ou de blocage au niveau du genou.
Ouais, ça peut vite devenir handicapant au quotidien. Et pour le traitement, est-ce qu'on retrouve la même approche intégrée que pour les autres blessures du genou?
Oui, absolument. Le document préconise une prise en charge globale qui combine les thérapies manuelles, les technologies de pointe, la rééducation et le soutien naturopathique.
Parlons d'abord des thérapies manuelles. Quel est le rôle de l'ostéopathe dans ce cas?
L'ostéopathe va s'intéresser à l'ensemble du membre inférieur du bassin au pied pour identifier les tensions musculaires, les restrictions articulaires ou les déséquilibres posturaux qui pourraient perturber le mouvement de la rotule. Il va utiliser des techniques manuelles douces pour relâcher les tensions, améliorer la mobilité et réharmoniser l'ensemble du corps.
C'est vraiment l'idée de remettre le train sur les rails, en quelque sorte. Et pour la partie technologique, on utilise toujours le laisseur et les ondes de choc.
Oui, ces technologies peuvent être utilisées pour réduire l'inflammation et stimuler la régénération des tissus au niveau de l'articulation fémoro-patellaire. Mais le document insiste sur le fait que ces techniques ne sont pas des solutions miracles et qu'elles doivent être intégrées dans un programme de rééducation personnalisée.
Parlons justement de la rééducation. Qu'est-ce qu'elle implique, concrètement?
La rééducation vise à renforcer les muscles de la cuisse, en particulier le vaste interne du quadriceps, qui joue un rôle crucial dans la stabilisation de la rotule. Des exercices spécifiques permettent de renforcer ce muscle et d'améliorer le contrôle du mouvement de la rotule.
Donc, on muscle les cuisses pour mieux contrôler sa rotule. C'est logique, ouais. Et qu'en est-il du soutien naturopathique? Y a-t-il des conseils particuliers pour ce syndrome?
Oui, la naturopathie peut aider à réduire l'inflammation et à favoriser la régénération des tissus. Le document mentionne l'importance d'une alimentation anti-inflammatoire riche en antioxydants, ainsi que la possibilité d'utiliser des compléments alimentaires comme la glucosamine ou le curcuma.
On voit vraiment que cette approche intégrée s'attaque aux problèmes sous tous les angles. Mais avant de passer à la dernière blessure, j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, l'importance de la prévention. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter ces problèmes de rotule?
Bien sûr, il y a. Le document donne quelques conseils de prévention, comme le renforcement musculaire, régulier le port de chaussures adaptées et la correction des éventuels déséquilibres posturaux.
Des conseils précieux pour tous ceux qui veulent protéger leurs genoux. Bon, on arrive à la dernière blessure du genou. Les entorses ligamentaires légères. De quoi s'agit-il exactement?
Les ligaments, ce sont des bandes de tissu fibreux qui relient les os entre eux et qui stabilisent l'articulation. Une entorse, c'est un étirement ou une déchirure d'un ligament qui peut survenir lors d'un mouvement brusque ou d'un traumatisme.
Par exemple, en se tordant la cheville pendant une randonnée.
Exactement. Le document se concentre sur les entorses ligamentaires légères, c'est-à-dire les entorses où le ligament n'est pas complètement rompu.
Et comment savoir si on a une entorse ligamentaire légère?
Le symptôme principal, c'est une douleur au niveau du ligament touché qui peut être accompagnée d'un gonflement et d'une difficulté à bouger l'articulation. La gravité des symptômes dépend de l'étendue de la lésion ligamentaire.
Et pour le traitement, est-ce qu'on utilise encore la même approche intégrée?
Oui, tout à fait. Le document préconise une prise en charge globale qui combine le repos, la glace, la compression, l'élévation, la méthode Rissofo, la thérapie manuelle, la rééducation et le soutien naturopathique.
Donc on commence par les gestes de premier secours pour calmer l'inflammation, puis on enchaîne avec les thérapies manuelles et la rééducation.
Exactement. L'ostéopathe va utiliser des techniques manuelles douces pour mobiliser l'articulation, réduire les tensions musculaires et favoriser la circulation sanguine. La rééducation vise à renforcer les muscles qui soutiennent l'articulation et à retrouver une bonne proprioception.
Et le soutien naturopathique, quel est son rôle dans ce cas?
La naturopathie peut aider à réduire l'inflammation et à accélérer la cicatrisation des ligaments. Le document mentionne l'utilisation de plantes anti-inflammatoires comme l'arnica ou le curcuma, ainsi que la possibilité de prendre des compléments alimentaires riches en antioxydants et en collagène.
Waouh, on a vraiment fait le tour des principales blessures du genou et de leur traitement. Ce qui me frappe, c'est la cohérence de cette approche intégrée. On s'attaque au problème sous tous ses aspects, en combinant les meilleures techniques issues de différentes disciplines.
Absolument. Ce document nous montre que la médecine du sport évolue vers une prise en charge plus globale et plus personnalisée, qui tient compte de l'individualité de chaque patient.
C'est une vision très encourageante pour l'avenir du traitement des blessures du genou. Mais avant de conclure, j'aimerais vous poser une dernière question. Ce document se concentre sur les blessures sportives, et beaucoup d'entre nous souffrent de douleurs au genou sans forcément faire de sport. Est-ce que cette approche intégrée peut aussi les aider?
Oui, bien sûr. Les principes de cette approche peuvent être appliqués à tous types de douleurs au genou, qu'elles soient liées au sport, à l'âge ou à d'autres facteurs. L'important est de réaliser un bilan complet pour identifier la cause du problème et de mettre en place un programme de traitement personnalisé.
Merci pour ces précisions, Feiji. On arrive à la fin de notre deep dive sur les blessures du genou. J'espère que vous avez appris autant de choses que moi aujourd'hui. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle deep dive.